Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande de fruits de la terre à Abel. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau de leur graisse. Lisons au chapitre 4, verset 3 de la Genèse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Et Caïn fut très irrité. Son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. On va parler principalement ce matin de la souffrance imméritée. Alors là, on est devant le premier crime qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, d'après le texte révélé par la parole de Dieu. Le premier crime, et pourquoi Caïn a-t-il tué son frère ? Ben, on le voit, c'est pour des questions entre guillemets religieuses. Alors, si on compare tout de suite ce crime, cette motivation avec la nature qui nous entoure et ce qui se passe dans les règnes des animaux, on voit que c'est complètement différent, que l'homme est vraiment une créature à part sur la surface de la terre. Souvent, nous avons les personnes qui nous entourent qui s'étonnent de ce qui est encore au XXIe siècle, des problèmes et des conflits dont l'origine est une origine religieuse. Et il ne faut pas tellement s'en étonner à la lecture de ce texte, à la présentation de la Bible. Les premières pages de la Bible nous montrent que le premier crime qui a été commis, c'était un problème autour d'un culte, de la façon de rendre un culte et être agréable à Dieu ou pas agréable à Dieu, des questions spirituelles. Et donc la Bible nous présente ici la prédominance des questions spirituelles par rapport à tout le reste. Les choses spirituelles sont invisibles, mais ce sont elles finalement qui ont le plus de poids. Et cette constatation nous permettra de comprendre et d'avoir peut-être une meilleure lecture de notre monde aujourd'hui, des conflits qui éclatent dans toute la surface de la Terre, et chaque fois au XXIe siècle, peut-être plus que dans le passé, mais dans le passé il y avait ces questions d'être athée ou pas, ou être croyant ou pas croyant, mais là c'est des problèmes. Vous savez ce qui se passe dans notre monde. Notre sœur est au Tchad, elle nous dit qu'elle est vers le centre, entre le sud qui est chrétien et le nord qui est musulman. Il y a des cohabitations, mais il y a des tensions partout ailleurs, à beaucoup d'endroits dans la planète. Question de cohabitation avec des religions différentes. Et ces choses-là qui créent des conflits, des guerres, des massacres. En tout cas, en face de ce verset 8, on comprend peut-être un petit peu mieux pourquoi Dieu a chassé Adam et Ève du paradis. Ça n'allait pas pouvoir se passer bien. Et on voit que le crime est entré dans le monde à ce moment-là. Alors, on dit la Bible est la parole de Dieu. Je ferai un petit rappel. Pourquoi ce texte a-t-il de l'autorité aujourd'hui ? Pourquoi croire en ce qui est marqué là ? Jésus-Christ est ressuscité. C'est un événement historique qui s'est passé à un moment donné dans le monde. Jésus-Christ est ressuscité, il est revenu d'entre les morts pour ne plus jamais connaître la mort. Il a triomphé de la mort. Et donc, son message est appuyé par cette résurrection où il y avait des témoins qui l'ont vu, qui l'ont touché. 500 personnes à la fois, il est apparu, disent les Écritures. C'est quelque chose qui s'est passé à un instant donné dans notre monde. Et Jésus-Christ était le Messie qui a accompli par sa vie, par sa mort, une grande partie des prophéties de la Bible. La Bible est la parole de Dieu, il l'a attesté par sa vie, par l'accomplissement des prophéties, et il l'a attesté par ses paroles. Jésus a parlé de Abel, de son sang innocent qui avait coulé. Et ce sang, Dieu tirera jugement de tout cela. Il a dit, le sang de Abel va retomber sur la génération qui aujourd'hui me rejette, a dit Jésus. Et donc, pour Jésus-Christ, ces textes, Abel est un homme qui a vécu. C'est un personnage historique. Tous les témoins, toutes les personnes qui ont été persécutées, il dit du début de la Bible jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, toutes ces personnes-là, elles ne sont pas oubliées de Dieu. Donc, la foi que nous pouvons reposer sur ces textes repose sur le témoignage et l'autorité de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on peut les prendre comme quelque chose de sûr et de certain. Alors, je ne vais pas, comme je le disais, me concentrer sur le cas de Caïn. La parole de Dieu, il y a un long passage qui suit d'un dialogue avec l'Éternel et Caïn que nous verrons la prochaine fois. Là, je voulais avoir une petite pensée, même si c'est en filigrane, on le verra dans notre texte un petit peu plus tard. Ben, Abel, lui, on parle souvent, et c'est naturel, des criminels, de ceux qui sont faits, des jugements. Les médias s'intéressent souvent beaucoup aux coupables, mais très peu souvent, elles accordent de place aux victimes. Et je voudrais m'intéresser ce matin à la victime Abel, qui a vécu une mort violente. Et est-ce qu'il méritait cela? Est-ce qu'il méritait de souffrir, de mourir dans d'une mort violente par son propre frère? On peut penser à Adam et à Ève, leur premier enfant, qui a tué leur cadet. Peut-être il y en a qui ont des enfants parmi nous, plusieurs enfants. Imaginez-vous un de vos enfants qui assassine l'autre. Quelle douleur cela provoque dans une famille, quel drame, quelle souffrance. Et qu'est-ce qu'Adam et Ève avaient fait pour cela? Certainement rien du tout. Ils avaient dû donner la même éducation à l'un comme à l'autre. Et ils avaient, avec ses enfants, en quelque sorte, obéi à ce que Dieu leur le plan que Dieu avait pour l'humanité, quand il a créé l'homme et la femme, il les avait demandé de se multiplier, d'être fécond, de remplir la terre. Et donc ses enfants étaient vraiment dans le plan de Dieu, dans sa volonté, et en voilà un qui va assassiner l'autre. Quelle douleur. Les enfants étaient déjà grands, on s'attache à ses enfants, on les aime. On ne les fait pas grandir pour qu'ils se fassent du mal l'un à l'autre, loin de là. Alors, le thème du message ce matin, ce sont les souffrances imméritées. Peut-être quelqu'un aujourd'hui parmi nous souffre ou a souffert de façon imméritée. Junior disait cette semaine à l'école, ben, il y avait un cinquième, et puis il y avait un grand quatrième qui est arrivé, il est sorti de cours tout à coup, et puis Lui, il n'avait rien fait, il était là, et puis il a pris le bras, il a tordu le bras comme ça pour lui faire mal. Et puis, voilà. Il n'a pas compris pourquoi il lui avait fait ça. Et pour aller chercher pas trop loin, nous avons Cathy qui a le bras cassé, vous voyez, et puis elle n'a pas cherché non plus. Un accident de la circulation, une voiture qui voulait faire demi-tour et qui a percuté la voiture de Jackie. C'est pas pourquoi. C'est une des souffrances qui sont bien imméritées. Elle est dans le plâtre, ça se ressoude pas, il y a des problèmes, des difficultés, ça se passe pas bien comme il faudrait. Il lui faudra beaucoup de patience. Des souffrances que on trouve que c'est pas juste, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que nous apprend notre texte, notre Bible jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'elle nous a appris? On a vu dans le chapitre 3 des souffrances qui étaient voulues par Dieu et en quelque sorte méritées. Après la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu avait dit à Adam, maintenant, la terre ne va pas te donner facilement ses fruits, il va falloir que tu travailles le sol, la terre elle fera pousser des ronces et toi, tu devras la travailler à la sueur de ton front pour gagner ta vie, pour pouvoir te nourrir. Ce ne sera plus le paradis comme avant. Ce sera des souffrances pour toi. Et il avait dit également à Ève, eh bien maintenant tes grossesses vont être difficiles, ce ne sera pas simple d'avoir des bébés. Et en mettant les bébés au monde également, tu vas souffrir, ce sera douloureux. Et ton mari va dominer sur toi, ce n'est pas toujours peut-être rigolo pour les dames. C'était quelque chose qui était mérité en quelque sorte, qui était voulu par Dieu. Et voilà. Mais là, on a quelque chose où Dieu est étranger à ses souffrances par rapport au crime, par rapport aux douleurs des parents. Ce n'est pas le fait de Dieu. Dieu avait prévenu Caïn. Il lui avait dit, écoute, il faut que tu agisses bien, relever ta tête. C'est ça, retrouver le sourire, rêve pas rester avec ton irritation intérieure, ta colère intérieure. Le péché, là, ça fait son entrée dans le monde, on le voit, et les ravages qui vont avec. Alors, d'accord, ce n'est pas Dieu qui a envoyé ces souffrances, beaucoup plus graves que les autres. Pourquoi Dieu permet cette souffrance qui n'est pas justifiée, qui n'est pas méritée? Pourquoi Adam et Ève vont se poser bien des questions à ce moment-là? Et on va voir notre suite de textes. On va peut-être trouver quelques petites réponses, quelques pistes. Mais notre texte ne dit pas grand-chose. Il y a une consolation quand même qui apparaît au verset 25 de notre chapitre. Verset 25, si quelqu'un veut le lire, qu'il a sous les yeux. Chapitre 4, verset 25. Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils, et l'appela le lion de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils, à la place d'Abel, que Caïn a tué. Alors, Dieu n'a pas dit pourquoi il y avait cette souffrance qui était arrivée, explicitement, pourquoi il l'a laissé, pourquoi il l'a permise, mais il a donné à Ève et à Adam une consolation à travers un autre fils qui allait venir et qui allait les consoler. Ce fils allait être très différent de Caïn. On va suivre tout ça dans la suite du livre. C'est un set qui va être porteur d'espoir. Alors, on a une première piste dans notre texte. Dieu est au courant et Dieu, il sait consoler celui qui souffre. Dieu sait consoler celui qui souffre. Je voudrais que l'on réfléchisse maintenant sur une autre personne qui a eu des souffrances inméritées, Jésus-Christ. Jésus n'est pas le fils de Adam, dans le sens que le père de Jésus était Dieu. Le texte, vous avez vu comme notre texte précise chaque fois, Adam connut Ève, donc Adam a des relations avec Ève, et Ève ensuite est enceinte, et comment le texte de Matthieu nous précise que ça ne s'est pas passé comme ça. Pour le texte des évangiles nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a mis la vie à l'intérieur du ventre de Ève, et donc Jésus serait appelé le Fils de Dieu, et donc n'étant pas fils de Adam, il n'est pas ce problème que nous avons tous avec le péché. Mais, en venant dans l'humanité, Jésus-Christ, en s'incarnant, a pris quand même toute la condition humaine, dans le sens où il a souffert, il a grandi, il était fils de charpentier, il a dû apprendre à travailler, et on le voit à travers les évangiles, décrit comme quelqu'un qui était fatigué, qui était sensible à la même fatigue physique que nous. On peut supposer également, je ne sais pas si les bébés éprouvent de la souffrance ou pas au moment de l'accouchement, mais qu'il est venu exactement au monde comme les autres enfants. Il a revêtu notre humanité, il a pris, il a accepté cette sanction qui a été pesée sur Adam et Ève quant aux conditions de vie sur la terre par rapport à la souffrance dans le travail, par rapport à la façon que nous aurons que les dames allaient porter les enfants. Au-delà de cela, Jésus a également eu des souffrances imméritées, et sa famille aussi, hein. Marie, Joseph, n'ont trouvé qu'une étable pour mettre Jésus au monde. Jésus est né dans une étable. Il y a des prophéties qui ont été données à Marie par Siméon. Une épée te transpercera l'âme. Ils ont dû fuir en Égypte pour échapper à Hérode le sanguinaire. Des choses qui n'étaient pas du tout méritées. Jésus est devenu grand après l'annonce de son identité dans la synagogue, qui est une maison de prière, qui est l'endroit à l'époque où on allait prier Dieu. Et là, après avoir révélé qu'il était le Messie, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a failli être exécuté sur le champ. Les âmes de sa ville, qui le connaissaient, qui l'avaient vu grandir, qui le connaissaient tous, ils l'ont pris, ils ont voulu le mettre à mort. Nous avons l'actualité de cette semaine-là qui nous parle dans l'île de Madagascar, ce qui s'est passé pour des personnes qui ont été lynchées par une foule. Alors on voit ça, on est effrayé par ce genre de choses, et c'est ce qui a failli arriver à Jésus, mais son heure n'était pas venue et Dieu n'a pas permis que l'on touche à ce moment-là à son fils qui avait une mission sur la terre. On voit Jésus qui a été outragé dans sa personne même, alors qu'il guérissait, qu'il faisait du bien. On l'accusait de faire ceci par la puissance de Satan. Dans l'évangile de Matthieu, on voit ça. Dans l'évangile de Jean, on le voit poursuivi par les chefs de religieux parce qu'il avait guéri des malades le jour du sabbat, le jour du repos de Dieu. Il était poursuivi. On l'a vu également dans les derniers jours, trahi, vendu par son disciple Judas qui était avec lui, qui partageait sa vie. Est-ce que vous avez déjà été trahi par quelqu'un, par votre ami, par quelqu'un que vous aviez de proche, qui vous tourne le dos pour vous faire du mal, qui vous vend comme une marchandise pour de l'argent? Cela fait mal. Il a été lâché et renié par ses 12 amis. On connaît cette histoire, la façon dont tous ses disciples se sont dispersés, et celui qui était le plus proche, le plus vaillant, le plus courageux, Pierre, qui renie de le connaître. On le voit comparaître devant 3 tribunaux différents. Un tribunal religieux qui l'accuse, qui le condamne sur des fausses accusations. On les conduit vers le tribunal de Hérode, qui lui donne des coups, qui se désintéresse de son cas, qui ne fait fi d'appliquer la justice. Et puis comparé devant Pilate, où là il n'est rien du tout par rapport à la géopolitique que pratique Pilate. Il a besoin, il est roi des Juifs, il mourra un roi des Juifs. Et je ne me pose pas de questions, je l'amène, je le livre pour être crucifié. Et la foule dit, on préfère qu'un brigand soit libéré, mais que lui meure, que lui souffre la crucifixion, des souffrances imméritées. Jésus-Christ a souffert des souffrances complètement imméritées. On le voit ensuite, se moque de lui, on lui donne des coups, on le fouette, on l'insulte, et puis on finit par le mettre à mort sur la croix. Les historiens disent que c'est la façon la plus cruelle que les hommes aient inventée pour pouvoir mettre à mort, exécuter une sanction légale. C'est ce qui a été la façon de tuer légalement un homme la plus horrible de tous les temps, qui a été mis en place par les hommes, c'est la crucifixion. Il n'y avait rien de pareil avant, il n'y a eu rien de pareil après, que la crucifixion, un acte, une façon légale de mettre à mort une personne. Et sur la croix, on le voit abandonné de son Père, chargé de nos fautes. Alors, quelques réflexions sur ces souffrances imméritées de Jésus. Donc, je l'ai déjà parlé, Jésus a accepté la condition des fils d'Adam que nous sommes, ses souffrances méritées, il les a prises sur lui. On le voit également accepter les souffrances imméritées. Il n'y a pas chez lui de révolte, mais il se confie en Dieu. Alors, Marc chapitre 14, versets 32 à 42. C'est un passage, il y en a. Ce passage-là est répété 3 fois dans les évangiles, où Marc, tu peux nous le lire, dit. Marc, chapitre 14. J'ai pas fait d'erreur.
Merci.
Versets 32 à 42.
Ils arrivèrent ensuite à un endroit appelé Gethsémané.
Donc c'est Jésus et ses disciples, après avoir pris le repas, après avoir quitté la chambre haute.
Ensuite, à un endroit appelé Gethsémané, Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis il emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à ressentir de la frayeur et de l'angoisse. Et il leur dit, « Mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Restez ici et demeurez éveillés. » Il alla un peu plus loin et se jeta à terre et pria pour que, si c'était possible, il n'ait pas à passer par cette heure de souffrance. Il disait, « Abba, ô mon Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint ensuite vers les trois disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre: « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de rester éveillé même une heure? Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Ils ne pouvaient pas garder les yeux ouverts et ils ne savaient que lui dire. Quand il revint la troisième fois, il leur dit: « Vous dormez encore et vous vous reposez? C'est fini. L'heure est arrivée. Maintenant, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Voyez, l'homme qui me livre à eux est ici. »
Vous aurez remarqué dans ce texte comment à la fois Jésus demande à ce que l'épreuve s'en aille et que la coupe s'en aille, et en même temps il se confie en Dieu que ta volonté s'accomplisse. Il y a les deux côtés, et dans nos souffrances imméritées par lesquelles nous pouvons passer, nous pouvons trouver là une ressource. À la fois c'est bon et c'est permis de dire: non, je veux pas, non, c'est trop dur, non, je veux pas souffrir. Et à la fois accepter, c'est ce qu'a fait Jésus. Nous avons une nature humaine. Jésus a également intercédé pour ses bourreaux, Luc 23, 33 à 34. Luc 23, chapitre 23, verset 33, si quelqu'un veut le lire. T'as trouvé, Jacqueline?
Luc 23, verset 33.
33, 34, oui.
Alors, ils arrivent à l'endroit appelé le crâne. Là, les soldats clouent Jésus sur une croix. Ils clouent aussi les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit: « Père, donne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements.
Puis, voilà, on va s'arrêter là. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a intercédé pour ses bourreaux. Et nous voyons que la mort également a mis fin aux souffrances. Je voulais lire ensemble le passage de l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 25 à 30. Bon, l'heure a tourné, on va. Je pense qu'on le connaît bien, le moment où Dieu a terminé en disant, où Jésus a terminé son chemin sur la terre en disant: tout est accompli. Et il est décédé. Jésus est ensuite ressuscité plein de gloire. Donc nous avons ici quelques pistes pour nos souffrances, savoir les confier en Dieu, se confier dans les bons soins de Dieu, accepter si on doit souffrir, quoique il est bon de demander, et il n'est pas, Dieu ne va jamais nous faire le reproche que de lui demander de les enlever, ces souffrances. Mais si les souffrances sont là, eh ben, Jésus les a acceptées. Jésus a intercédé également pour ceux qui le faisaient souffrir. Il a prié pour eux. C'est quelque chose que l'on peut faire par rapport à ceux qui nous persécutent, qui nous font souffrir injustement. Et on voit que les souffrances ont une fin. En ce qui concerne Jésus-Christ, sa mort a mis fin à ses souffrances. Et toutes les souffrances que l'on peut connaître ici-bas, la mort y met la fin. Ce n'est pas ce que je souhaite à quiconque qui est dans la souffrance, bien sûr. Mais il faut savoir que de toute façon, cela va se terminer un jour. Jésus-Christ est ressuscité, il est rentré dans l'éternité et il a ouvert le ciel pour que dans la présence de Dieu, on trouve une éternelle consolation et une éternelle joie. Voilà, c'est sûr, c'est quelques réflexions qui, je pense, dans lesquelles nous pouvons trouver quelques encouragements lorsque nous passons par ces terribles moments de souffrance. Et c'est d'autant plus dramatique quand on y est pour rien du tout. Donc, les souffrances, on trouve une fin. On a vu dans notre texte de la Genèse que Dieu a envoyé une consolation pour Adam et Ève. Dans le livre de Job, il a mis fin à la souffrance également, lui a rendu tout ce qu'il avait. Et nous trouvons comme ça différents exemples dans les Écritures. Dieu n'est pas insensible. On va prier. Seigneur, merci pour notre texte de ce matin. Fortifie-nous, Seigneur, dans notre foi, lorsque nous voyons et nous sommes dans les difficultés, dans les souffrances, lorsqu'on nous fait du tort, et qu'il n'y a pas de raison, Seigneur, lorsque nous sommes des victimes. Seigneur, notre monde est pas toujours facile à vivre, Seigneur. Tu connais toutes choses et ce n'est pas dans ta volonté, Seigneur, que on nous fasse du mal. Ce n'est pas dans ta volonté, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui vient de toi. Mais Seigneur, tu le permets et nous voulons te faire confiance quant au résultat que ça doit produire. Merci de nous garder, Seigneur, et de nous fortifier pour cette semaine. Bénis ceux qui parmi nous souffrent particulièrement, Seigneur. Console-les, fortifie-les, selon tes promesses. Nous avons chanté ce chant, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Amen.
Amen.